Il est 18h dans ce studio, même heure à Tombouctou, Mopti, Sikasso et partout au Mali. Nous sommes dimanche 28 janvier 2024 et vous écoutez votre émission humanitaire Fabou Diren sur l'ensemble de nos radios partenaires. Voici les titres.
Plusieurs millions de personnes seront en insécurité alimentaire au Mali en 2024, selon l'UNICEF. Les enfants seront les plus touchés, ajoute l'organisation.
De son côté, le commissariat à la sécurité alimentaire prévoit déjà un plan de riposte pour soulager les populations, notamment en période de soudure.
Notre invité de la semaine est M. Moussa Goïta. Il est le coordinateur général du système d'alerte précoce. Il nous donnera les chiffres sortis de leur enquête et les initiatives pour faire face à cette insécurité alimentaire.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la présentation de cette demi-heure d'information Draman et
Mariam Maïga.
La technique est assurée par Nouhoum Djiri. Mariam, nous sommes à la fin du week-end.
Non, il ne faut pas dire fin du week-end. Il faut dire que la janviose, comme on le dit, la maladie la prend fin aujourd'hui.
Quoi. Ah, n'est-ce pas, hein?
Ouais, oui, la janviose, c'est le mois le plus long. Le mois le plus long. Au moins, on aura nos médicaments très bientôt. Certains ont déjà eu leurs médicaments, c'est-à-dire l'argent, le salaire de la fin du mois. Donc, ça va, je suis contente aujourd'hui. Je ne sens même pas la fatigue du dimanche.
Et pourtant, nous avons passé une semaine intense.
Ah non, tant qu'il y a l'argent, là, on ne sent pas. Tant qu'il y a l'argent, là, c'est que tu as moins de soucis.
D'accord, Mariam. Aujourd'hui, comme annoncé, nous allons parler de la situation d'insécurité alimentaire.
Effectivement, Draman, au Mali, près de 9 millions de personnes seront en insécurité alimentaire en 2024, selon l'UNICEF.
Les documents publiés au cours de ce mois de janvier indiquent que le centre et le nord du pays sont les localités les plus concernées.
Il s'agit du taux le plus élevé depuis une dizaine d'années, précise l'organisation.
Face à la situation, les populations exhortent le gouvernement et ses partenaires à prendre des initiatives pour minimiser les conséquences après cette annonce.
Des précisions avec Khalifa Goïta.
8,8 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire en 2024 selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Cette situation affectera surtout les enfants qui représentent près de 5 millions de personnes parmi les plus vulnérables. À Banyangara, au centre du pays, les populations se disent inquiètes. Pour elles, l'urgence doit être de mise.
Quand nous attendons de telles nouvelles de crise alimentaire, ça nous inquiète beaucoup, nous les femmes. Que les autorités initient des stratégies pour le bonheur des populations, parce que les conséquences sont généralement lourdes sur nous les femmes et nos enfants.
L'insécurité alimentaire perturbe le moral des gens. Que Dieu nous protège.
Toujours au centre du pays, cette fois-ci, à Tominan, dans la région des Sang, des habitants estiment que l'éveil de conscience peut sauver. Cela à travers plusieurs initiatives, notamment des campagnes de sensibilisation. Pour eux, cette approche est incontournable pour atteindre l'objectif.
Les autorités locales, c'est de faire des assemblées pour expliquer comment ne pas tomber dans cette crise alimentaire, de faire une sensibilisation avec la population de Tominia, de vendre moins les céréales.
Je pense que c'est mieux d'avoir des partenaires pour nous aider. Il faut aussi que nous sachions bien conserver les céréales que nous avons.
Il ne faut surtout pas qu'on exporte les céréales. Cela permettra de ne pas trop subir les conséquences de cette crise alimentaire. Je demande aux autorités et aux ONG de tout faire pour nous aider.
Oumar Ag Aller est le deuxième vice-président de la Chambre d'agriculture des Dirés. Pour lui, il revient aux Maliens de prendre leur destin en main afin d'assurer la sécurité alimentaire.
Concernant cette situation, le Mali peut faire l'exception. Parce que Dieu a fait que nous avons bénéficié naturellement d'un fleuve très long, des terres aussi fertiles, des hommes d'une forte jeunesse. Je pense que si en utilisant nos bras valides et nos terres, nous pouvons produire suffisamment sur tous les domaines. Moi, ce que je conseille à la population, mais à la jeunesse, c'est un combat maintenant à qui on doit faire face. Prenons-nous d'abord, prenons nos machines, aménageons nos terres. On a des organisations en pagaille, on a des jardins, on a des périmètres bleus, on a de l'oignon, on a du riz à utiliser pour la contre-saison, on a de la fumure et on a été prévenu. Un homme averti en vous dit, le Mali peut s'en sortir.
Par ailleurs, au niveau commissariat à la sécurité alimentaire, On parle d'un peu plus d'1 300 000 personnes qui seront en insécurité alimentaire, notamment entre juin et août 2024. Moussa Goïta est le coordinateur national du système d'alerte précoce.
Au Mali, il y a une zone qui est en phase d'urgence, la zone de Ménaka, et 12 zones sont en zone crise. La situation d'urgence de crise est surtout liée à l'insécurité de façon globale et à empêcher certaines personnes d'aller au champ pour cultiver. Donc voilà pourquoi aujourd'hui ce nombre, donc en termes de réponse, c'est la distribution alimentaire gratuite, le renforcement des moyens d'existence et souvent aussi des transferts monétaires, aussi des appuis nutritionnels aux enfants. Voici ce que l'État apporte aux populations, aux 1,3 million personnes qui seront en insécurité alimentaire dans la période projetée, c'est-à-dire juin à août.
En clair, le document de l'UNICEF conclut que cette situation alimentaire est due à diverses raisons, à savoir la reprise des hostilités entre les parties signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation, le blocus sur certaines régions du nord et du centre du pays, le retrait de l'amunissement et une intensification des attaques contre les civils. À cela s'ajoute la réduction de la présence des ONG dans certaines zones du pays.
Un reportage signé Khalifa Goïta avec le concours de nos correspondants locaux. Mariam, des chiffres avancés par l'UNICEF font froid au dos.
Effectivement, ils font peur et inquiètent surtout les populations, d'ailleurs même comme nous autres, parce que qui dit insécurité alimentaire, ce ne sont pas que les populations locales qui sont concernées, c'est nous tous, hein, à travers la cherté des produits que nous allons avoir, ce sera compliqué pour tout le monde, comme nous venons de l'entendre d'ailleurs dans ce reportage. Cependant, dans certaines localités, l'espoir d'une autodéfense alimentaire est déjà dans les esprits.
Et par ailleurs, les responsables du système d'alerte précoce précisent que les personnes qui seront en besoin d'assistance alimentaire n'atteindront pas le chiffre communiqué par l'UNICEF.
Effectivement, le coordinateur national du système d'alerte précoce, SAP, Moussa Goïta, ajoute aussi que des initiatives sont en cours pour répondre à ses besoins. Nous l'écoutons.
Alors, Monsieur Goïta, merci à vous de nous avoir reçus dans votre bureau aujourd'hui.
Merci, Monsieur Maïga. Merci d'avoir pensé à nous pour cette interview.
Il y a eu un rapport de l'UNICEF qui présage en 2024 plusieurs millions de personnes qui seront en besoin de vivre, qui seront sujets de l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, au niveau du système d'alerte précoce, quels sont les chiffres?
Merci bien pour cette question. Moi, en tant que coordinateur national du système d'alerte précoce au Mali, je suis étonné d'attendre ces chiffres de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Je ne sais pas quelle est la méthodologie d'évaluation que l'UNICEF a utilisée pour avoir ces chiffres. Nous inscrivons aussi bien l'UNICEF que le système d'alerte précoce dans une méthodologie consensuelle qui a été pensée par le CILS, le comité inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, pour mettre en place une méthodologie d'harmonisation des évaluations dans tous les pays de la sous-région. Et cette méthodologie, on l'appelle le cadre harmonisé. Alors, cet outil nous a permis au mois de novembre passé, si je ne me trompe, l'UNICEF était bel et bien présent, l'exercice s'est tenu à Sikasso. Au sortir de cet exercice, nous avons générer un chiffre de 1 372 244 personnes qui seront en insécurité alimentaire à partir de la période de soudure, c'est-à-dire juillet, août, septembre. Voilà ce que je peux vous dire par rapport aux chiffres que vous annoncez venant de l'UNICEF. Toutes ces activités que je viens de citer, nous les faisons en concertation avec les partenaires techniques et financiers, qu'ils soient de l'État, qu'ils soient du système des Nations Unies, nous le faisons ensemble. Et c'est des planifications conjointes qu'on fait par rapport aux réponses à l'endroit de ces personnes.
Alors, quand on parle des personnes qui seront en situation de besoin alimentaire, aucun chiffre n'est minime face à ces situations. Il y a certainement des initiatives qui sont prises par les autorités qui sont chargées de la question. Quelles sont les différentes initiatives qui sont prises pour soulager les populations?
Très bonne question aussi. Tous les ans, au sortir de cet exercice, les résultats auxquels nous parvenons permettent à l'État, à travers le commissariat à la sécurité alimentaire, de mettre en place ce qu'on appelle un plan national de réponse. Et dans ce plan national de réponse, il y a plusieurs réponses qui sont prévues à l'endroit de ces personnes qui seront en insécurité alimentaire à partir de la période de soudure. Il y a des distributions alimentaires gratuites qui sont prévues. Il y a même les facilités alimentaires pour une innovation. Avec les partenaires, il y a ce qu'on appelle les transferts monétaires qui sont aussi prévus à l'endroit de ces personnes. Il y a également, puisque quand on parle d'humains, on va forcément parler des animaux. Il y a aussi l'aliment bétail qui est prévu aussi pour ces réponses à l'endroit de ces populations.
Vous avez parlé de la période de soudure. Quel mois à quel mois, pour que les auditeurs puissent comprendre vraiment, il s'agit de quand et à quand?
La période de soudure au Mali se situe entre juillet, août et septembre. Parce que c'est la période où on se retrouve en phase transitoire. Ce qu'on a produit pour la campagne passée est fini. On n'a pas encore commencé à récolter la campagne en cours.
C'était là la première partie de notre échange avec le coordinateur national du système d'alerte précoce chargé des enquêtes sur plusieurs aspects humanitaires dans le pays. À présent, notre rubrique sketch.
Et c'est avec Zabiatou et Hamadi. La récolte fut bonne cette année pour Hamadi. Satisfait de sa moisson de mil, sorgho, maïs et d'arachide, Hamadi a déjà un projet en tête. Se faire de l'argent contre ses sacs de céréales. Arrivera-t-il? La réponse dans ce sketch.
Bonsoir Zabiatou.
Bonsoir Hamadi. Comment vas-tu? Et en famille?
Oui, tout le monde se porte en merveille. Alhamdoulilah, nous mangeons bien, car les récoltes ont été bonnes.
Ah, ça se voit que ma copine t'a fait du bon tôt ce midi. Je viens de faire un thé. Viens prendre le premier.
Zabiatou, merci pour cette énergie de plus. J'en ai besoin pour mon trajet vers Dougoudian.
Eh, bismillah, tu déménages ou quoi? De la manière dont ta charrette est pleine, j'en déduis que ce n'est pas pour y passer juste une nuit.
Non, toi aussi. Dans la charrette, c'est juste quelques sacs de riz, de mil et un peu de maïs et d'arachide. Et rassure-toi, demain c'est la foire de Dougoudian. Donc j'en profite pour me faire un peu de sous.
Hé hey Hamadi, je t'ai porté absent hier à la maison. Ta femme m'a dit que tu étais à la foire de Dougouba. Et ce soir, tu te diriges vers une autre foire. Tu vas vendre tous ces céréales, pourquoi?
Ah Zabiatou, ta question est déjà répondue. Mais si tu insistes, je le répète, je vais me faire un peu d'argent.
Gagner de l'argent, pour ensuite faire quoi? L'année dernière, Bamoussa a fait une très bonne moisson après la récolte de son champ des mille. Il ne faisait que vendre, notamment à Ousse le boutiquier. Il s'est fait beaucoup d'argent. La suite de l'histoire est connue de tous. Bamoussa a fini par s'endetter pour pouvoir nourrir sa famille. Pire, il achetait les kilos du mille à 500 francs. Devine chez qui? Chez Ousse, à qui il avait vendu le sac de 100 kg à 15 000 francs, soit à 150 francs le kilo. Hamadi.
Oui.
Tu ne parles plus?
Ah, j'étais perdu dans mes pensées. Ton discours m'a fait peur. C'est vrai que je veux gagner de l'argent, mais dans la plupart des cas, c'est encore pour acheter des vivres.
Alors, maintenant?
Je retourne à la maison. Je vais bien réfléchir. Faire un bilan de la campagne, stocker une quantité suffisante. Après, je vais voir s'il en reste pour la vente.
Voilà qui est bien réfléchi. Maintenant, prends ces feuilles de patates douces et dis à ma copine de te faire une bonne sauce ce soir. J'enverrai tes enfants récupérer ma part.
D'accord.
Tu n'attends pas le deuxième?
Non, c'est bon, Zabiatou. Après le dîner, madame va me faire un thé meilleur.
Grand merci à Zabiatou et à Hammadi. Mariam, souvent le comportement des populations peut provoquer ou accentuer l'insécurité alimentaire. C'est le cas de Bamoussa qui a vendu une grande partie de sa récolte pour ensuite acheter cher les denrées.
Effectivement, il en prend même à crédit chez le commerçant à qui il avait auparavant vendu ses sacs. Ce qui nous amène vers la deuxième partie de notre échange avec le coordinateur du SAPA, Moussa Goïta.
Au-delà des initiatives prises par les autorités pour soulager les populations, en tant qu'expert du domaine, avez-vous des conseils à donner aux populations, des bonnes méthodes pour s'auto-adapter et se protéger des risques de l'insécurité alimentaire?
Oui, nous sommes face à ce qu'on appelle les changements climatiques. On doit pouvoir s'adapter à ces changements climatiques. En quoi faisant, par exemple? En cherchant ce qu'on appelle les semences améliorées, les semences qui s'adaptent à cette période. Dans les communes, dans les cercles aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les secteurs d'agriculture. En suivant les conseils de ces agents d'agriculture, ça pourra nous permettre de comprendre beaucoup de choses avec eux et d'éviter beaucoup de choses. Puisqu'il y a des périodes indiquées pour semer. Et en écoutant ces agents, ils vont certainement les indiquer cette période propice pour le semis. Et aussi la variété adaptée à cette période-là. Donc si nous acceptons, si je dis nous, c'est nous les producteurs, si nous acceptons les appuis conseils de la part des services techniques de l'État, je pense qu'on pourra s'adapter à ce changement climatique. Puisqu'il y a des pluies utiles, il y a des pluies aussi non utiles. C'est en suivant les conseils agrométéorologiques, je pense que nos producteurs pourront bien s'en sortir s'ils respectent le calendrier agricole qui leur sera soumis pour la bonne marche de la campagne. Lors de l'enquête nationale de sécurité alimentaire, c'est des enquêteurs qu'on envoie sur le terrain pour collecter les données. Ces données vont concerner les données des ménages. Ils rentrent jusque dans les ménages pour prendre certaines informations. Donc souvent, il y a des chefs de ménage qui font rétention de certaines informations. Alors, c'est la remontée de ces données qui nous permet de faire l'analyse de la situation alimentaire et de donner une cartographie de la situation alimentaire et aussi de faire sortir le nombre de ménages par cercle. Maintenant, si vous ne répondez pas correctement au questionnaire, ça risque de biaiser les informations puisque le quota est donné en fonction du nombre de personnes. Par région et par cercle. Si le quota qu'on amène, tu ne te retrouves pas dans ce quota, c'est que ça veut dire souvent vous n'avez pas bien répondu, vous avez mal répondu au questionnaire qui vous seront soumis par les enquêteurs. C'est pourquoi je demande à tous les producteurs, à tous les ménages, à tous les chefs de ménage d'accepter de répondre aux questions qui vous seront posées par les enquêteurs, commis par les système d'alerte précoce pour la collecte des données.
Merci beaucoup à vous, M. Goïta.
À titre de rappel, vous suivez Studio Tamani à travers nos 85 radios partenaires et sur nos différentes plateformes. Merci beaucoup à vous. Nous allons souffler un peu en musique. C'est à travers notre rubrique Artiste de la semaine.
Tu es parti à la recherche de qui aujourd'hui?
Mariam, nous partons au nord du pays, devine.
Ah ben au nord du pays, c'est vaste, il y a tellement de talents, des anciens talents, des voix qui nous ont émerveillés, qui nous ont bercés. On a grandi avec, il y en a tellement, ça là c'est difficile. Il faut donner des indices.
C'est une ancienne voix qui nous a vraiment émerveillés dans les années 2000. Hein.
Ah, même avec ça, là, je ne sais pas. Quand tu dis 2000, il y en a tellement. Je peux dire paix à son âme, Haïra Arbi. 2000, je peux dire Tchali Arbi. Baba Sala, ils ont tous chanté. Donc...
Là, tout de suite, tu es allé vers Gao, mais restons à Tombouctou, mais dans un cercle.
Restons à Tombouctou dans un cercle. Je ne sais pas. Indice encore. Je ne sais pas.
Cercle de Diré.
Diré.
Une dame.
Ami Wassidi.
C'est exactement Ami Wassidje, native de Diré, un cercle de la région de Tombouctou. Suivant. Ami, bonjour.
Nous remercions Dieu. Je salue mes parents, mes fans, où que vous soyez. Bonsoir à vous. Je suis heureuse d'être dans ce studio aujourd'hui.
Ami Wassidje, quand est-ce que vous avez commencé à chanter et comment est-ce que vous avez aimé la musique?
J'étais une danseuse. Je dansais auprès de l'orchestre Binga Star de Diré. J'ai fait la semaine locale, régionale et la biennale. J'ai dansé auprès de plusieurs artistes connus. C'est après que j'ai fait une maquette en 2004. Je l'ai finie en 2005. Puis en 2008, j'ai fait paraître mon album.
2008, album.
J'ai aimé la musique depuis longtemps. J'ai commencé d'abord à faire des refrains. Puis, un jour, un guitariste m'a dit, « Ami, pourquoi tu n'essaierais pas de chanter ?» Je lui ai répondu, « Chaque chose en son temps. » Et c'est arrivé dans les années 2000. J'ai commencé par Chek Tamashek, qui veut dire « Nous devons mettre en avant notre culture. » Le deuxième morceau est Tamala. Ce sont ces deux chansons qui ont énormément cartonné.
Donc, mi dongeli da ofanaka. Ou des premiers morceaux. Deuxième morceau, ou des Tamalaï. Donc, Tamala ni Chek Tamashek ou des Fiki Kosovo.
Parle de showbiz, de la musique, parle certainement des difficultés. Ami en a rencontré certaines.
Tiens là, hal ni bitamala, ni tamana ni talona we gele adwe.
Il y a certes des difficultés dans toute entreprise. Pour réussir, il faut braver les difficultés. Après les efforts, vient le succès.
Ni o blai punadro, iti sega gnyala tega.
Quels sont vos différents projets, Ami Wassidje?
Bon, ne ka yeta we fen chamay parce que l'album Bora, Tamala Bora 2008.
J'ai beaucoup de projets. Déjà après Tamala apparu en 2008, entre 2008 et 2020, j'ai énormément progressé sur des projets. Et en 2002, j'ai fait le concert dédicace de mon second album au CICB. Le temps pris s'explique par ma manière de progresser. Pour faire un travail potable, je soumets mes morceaux aux aînés qui me conseillent. Car la musique doit être éducatrice et facteur d'union.
Il va bien se gérer, na se gérer à gagner, na à forier quoi gagner, voilà il se cabre.
Dans vos différents morceaux, quels sont généralement les messages que vous adressez aux populations, à vos fans?
Bon, les gars, donc il a ne peut faire un chemin fou. Sabali.
Dans mes chansons, je propose souvent des thèmes en lien avec le pardon et la patience, la paix et la culture.
Alors, Ami, si vous avez un conseil à donner à la jeune génération d'artistes, ce serait quoi?
Aujourd'hui, vous retrouvez des chansons qui n'ont pas de sens sur le marché et les fans les préfèrent au détriment des musiques traditionnelles. La faute incombe beaucoup aux fans qui préfèrent les chansons de clash. Ces artistes se multiplient car sont écoutés et c'est tristement à la mode. Sinon, le sens de la musique, c'est éduquer.
Il veut réfléchir, il veut courir. Il veut courir d'amis, mais moi, l'a dit. Donc, là, comme moi, l'a dit, c'est l'éducation.
Aïgo baname, aïgo bana, aïgo bana. Misafone dam hale bana isti yotamani. Lulundar marga wosi bana isti yotamani. Lulunda soro wosi bana isti yotamani. Ndehar tamani, tamani,
Tamani si journalisti technicien ye fowa Walander baba ho yero go iganda chere tila sugo da bu yerga wir sade madin chere yemagui yerinye ijoyo yemagui yerinye ijoyo yemadin chere yerinye ijoyo yemabachere.
Vous l'aurez compris, nous étions avec Ami Wassidié, native des Direy dans la région de Tombouctou. Merci à vous, à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Mes vœux les meilleurs pour un Mali en paix et que nos aigles reviennent avec la Coupe d'Afrique des Nations.
Kanyini ala fe anga Mali ala ka tanye anga jero fana ala ka nani kupuye.
Amina Arabi kupu bena fana ala sonama.
Ami Wassidié, une star qui fait énormément la promotion de notre culture et de nos traditions à travers sa musique. Et moi, j'adore plus la chanson dédiée à nous, les Maïga. Tamala, Tamala, Maïga. On sait qu'elle a vraiment chanté pour ses maîtres que nous sommes, les Maïga. Donc, j'adore cette chanson-là. Et quand je l'entends, ça me fait danser, ça me fait bouger.
Alors, nous nous acheminons vers la fin de notre émission, Mariam.
Exactement, le temps de découvrir la dernière rubrique de cette émission qui est le proverbe de la semaine.
Et de quoi parle cette citation ?
Si la famine vient, la suprême loi c'est le salut du peuple. Que pensent les populations de cette citation ? La réponse dans ce vox pop réalisé par Aïssa Tadjara.
Ça veut dire que la population doit mettre les pays au-dessus de tout.
À mon avis, un sacrifice, parce qu'il y a de ces circonstances peut-être défavorables qui nous ont conduit à la famine. Donc il nous faut quand même, pour pouvoir surmonter cette difficulté, peut-être un sacrifice.
C'est comme pour dire au peuple que si la famine vient, c'est au peuple maintenant d'être résilient, de faire face au fléau de la famine.
Ça veut dire que la famine peut être l'élément déclencheur de toutes choses pires au sein d'une nation. Quoi. Peu importe, mais quand il y a la famine quand même, la priorité c'est vraiment de faire en sorte que la population puisse être épargnée de cette situation chaotique.
Ça veut dire quand il y a la famine dans un pays, il faut situer les responsabilités, dégager les mesures d'urgence pour sauver le peuple. L'État doit quand même être au premier rang. Le peuple aussi doit savoir que nous sommes dans une situation anormale. Donc il faut aussi vivre dans une situation exceptionnelle.
Draman, que penses-tu de ce proverbe-là ?
Mariam, je pense déjà qu'il y a certaines personnes qui ont déjà essayé d'expliquer. Quand il y a la famine, l'urgence, c'est de voir comment protéger les populations. L'urgence, c'est de voir comment aider les uns et les autres à ne pas trop souffrir par cette famine ou par l'insécurité alimentaire.
Moi, je penserais plutôt le salut du peuple, c'est-à-dire l'entraide entre les personnes, c'est-à-dire la première réponse qu'on peut donner dans ce genre de situation vient surtout de l'entourage, le voisinage, la communauté, avant d'élargir ça au niveau des partenaires du gouvernement, c'est-à-dire il faut regarder autour de toi si ton voisin a des soucis, être regardant, lui apporter quelque chose.
Comme le dit aussi un adage bambara, borolangolo tejo, un sac vide ne peut pas se tenir équilibré. Je crois que j'ai bien traduit, non?
Ouais, tu as bien traduit. Il faut vraiment avoir quelque chose dans le ventre pour faire quelque chose de ses 10 doigts, pour travailler, tout ça.
Ainsi prend fin cette émission qui vous a été présentée par Draman et
Mariam Maïga.
Rendez-vous dimanche prochain à la même heure et sur la même fréquence. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.studiotamani.org.
À Studio Tamani, la bonne information est également une manière d'aider la population. Grand merci à vous pour votre constante fidélité renouvelée au quotidien.
Mariam, avant de se quitter, tout au long de cette émission, nous avons écouté plusieurs conseils.
Vous l'aurez compris, chers auditeurs, que des initiatives sont en cours pour soulager les populations qui seront en situation d'insécurité alimentaire cette année au Mali, selon le système d'alerte précoce.
Et parmi les conseils pour éviter que les chiffres soient biaisés, les responsables du SAP, système d'alerte précoce, demandent aux populations de donner les bonnes informations aux enquêteurs.
Il faut surtout bien gérer les récoltes, car l'autosuffisance alimentaire est possible au Mali, selon plusieurs paysans. j'adore cette conclusion-là également.
Merci à vous, auditeurs et auditrices. Mais ne décrochez pas, car tout à l'heure, vous aurez la version en bambara.